Elle s'appelait Pilar Ternera. Elle avait fait partie de l'exode dont la fin glorieuse fut la fondation de Macondo, emmenée de force par sa famille afin de l'arracher à l'homme qu'il avait violé à l'âge de 14 ans et l'aima jusqu'à ce qu'elle en eût 22, mais qui ne se décida jamais à rendre publique leur situation, car il était le bien d'autrui. Il lui promit de la suivre jusqu'au bout du monde, mais plus tard, quand il aurait arrangé ses affaires. Et elle s'était lassée de l'attendre à force de le reconnaître dans les hommes grands et petits, blonds et bruns, dont les cartes lui promettaient la venue de tous les coins du globe, par terre et par mer, pour dans 3 jours, dans 3 mois ou dans 3 ans. Dans son attente, elle avait perdu la vigueur de ses cuisses, la fermeté de ses seins et l'habitude de la tendresse, mais elle conservait intacte la folie du cœur. La raison dérangée par ce jouet merveilleux, José Arcadio alla le dépister toutes les nuits dans le labyrinthe de la chambre. Il lui arriva de trouver la barre mise à la porte, et il cogna à plusieurs reprises, sachant bien que s'il avait eu l'audace de frapper une première fois, il devait continuer jusqu'à la dernière, et au bout d'une attente interminable, elle lui ouvrit. Dans la journée, tombant de sommeil, il jouissait en secret des souvenirs de la nuit précédente. Mais lorsqu'elle venait chez lui, gaie, insouciante, spirituelle et grivoise, il n'avait aucun effort à faire pour dissimuler sa surexcitation, car cette femme, dont les explosions de rire faisaient peur aux pigeons, n'avait rien de commun avec cette puissance invisible qui lui apprenait à retenir sa respiration et à contrôler les battements de son cœur, et lui avait permis de comprendre pourquoi les hommes ont peur de la mort. Il s'était tellement renfermé en lui-même qu'il ne saisit même pas la raison de l'allégresse générale lorsque son père et son frère eurent ameuté toute la maison par l'annonce qu'ils étaient parvenus à réduire les débris métalliques et à isoler l'or d'Ursula. En effet, après des journées de lutte patiente et complexe, ils avaient réussi. Ursula était toute heureuse et alla même jusqu'à remercier Dieu d'avoir créé l'alchimie, cependant que les gens du village se pressaient dans le laboratoire où on leur servit de la confiture de goyave avec des petits biscuits pour célébrer le prodige et que José Arcadio Buendía leur laissait voir le creuset contenant l'or récupéré comme s'il venait de l'inventer. À force de le montrer à chacun, il finit par se trouver nez à nez avec son fils aîné, qui, ces derniers temps, n'avait pour ainsi dire plus mis les pieds au laboratoire. Il lui plaça sous les yeux la masse solidifiée, d'aspect jaunâtre, et lui demanda « Qu'est-ce que tu en penses ?» José Arcadio répondit en toute franchise « C'est de la crotte de chien. » Du revers de la main, son père lui appliqua sur la bouche un coup violent qui fit jaillir le sang et les larmes. Cette nuit-là, Pilar Ternera posa sur sa figure enflée des compresses d'arnica, tâtonnant dans le noir pour se servir du flacon et du coton, et, voulant l'aimer sans réveiller son mal, lui fit tout ce qu'il voulut sans lui demander de bouger. Ils parvinrent à un tel degré d'intimité dans leur rapport que peu après, sans même s'en rendre compte, l'un et l'autre se laissaient aller à murmurer. « Je veux être seul avec toi, » lui disait-il. « Un de ces jours, je vais tout raconter à tout le monde, et finis le temps où il fallait se cacher. » Elle n'entreprit pas de le calmer. « Ce serait bon, » répondit-elle. « Une fois seul, nous laisserons la lampe allumée pour bien nous regarder faire. Et je pourrai crier tout ce que je voudrais sans que personne ne vienne s'en mêler. Et tu me diras à l'oreille toutes les cochonneries qui te passeront par la tête. » Cette conversation, la cuisante rancune qu'il ressentait à l'égard de son père et l'éventualité imminente d'un amour sans retenue lui inspirèrent une confiante hardiesse. Spontanément, sans s'y préparer d'aucune manière, il raconta tout à son frère. Au début, le petit Aureliano ne voyait guère que le danger, l'énorme marge de risque que comportaient les aventures de son frère, mais il ne parvenait pas à imaginer ce que l'objectif en question avait d'irrésistible. Peu à peu, il se laissa gagner par la même fébrilité. Il se faisait raconter chaque péripétie dans le détail, allait jusqu'à éprouver la souffrance et le plaisir de son frère, et se sentait rempli de crainte et de bonheur à la fois. Il l'attendait, éveillé jusqu'à l'aube, dans le lit déserté qu'on aurait dit tapissé de charbon ardent, puis, tous deux, restaient sans dormir, à parler jusqu'à l'heure de se lever, si bien que l'un et l'autre ne tardèrent pas à souffrir de la même apathie, à témoigner d'un semblable mépris pour l'alchimie et le savoir de leur père, et à trouver refuge dans la solitude. « Ces enfants marchent comme des ahuris !» disait Ursula. « Ils doivent avoir des vers !» Elle leur prépara une répugnante décoction de pâtes d'oie pilées que tous deux absorbèrent avec un stoïcisme inattendu et qui les fit s'asseoir en chœur sur leurs pots respectifs 11 fois dans la même journée, jusqu'à expulser quelques parasites roses qu'il montrera tous avec jubilation, car il leur permettait de détourner les soupçons d'Ursula de la véritable origine de leur distraction et de leur langueur. Ainsi, non seulement Aureliano pouvait s'entendre raconter les expériences de son frère, mais il avait loisir de les vivre comme si elles lui fussent arrivées. Un jour qu'il lui expliquait avec force détail le mécanisme de l'amour, il interrompit son frère pour lui demander « Qu'est-ce qu'on ressent ?» José Arcadio lui répondit de but en blanc « C'est comme un tremblement de terre. » Un jeudi de janvier, à 2 heures du matin, naquit Amaranta. Avant que personne ne fît irruption dans la chambre, Ursula l'examina sous toutes les coutures. Elle était lascive et toute humide comme un petit lézard de muraille, mais toutes les parties de son corps étaient humaines. Ce n'est que lorsqu'il sentit la maison pleine de monde qu'Aureliano comprit qu'il y avait du neuf. Profitant de la confusion pour passer inaperçu, il sortit quérir son frère qui avait quitté le lit depuis 11 heures du soir, et sa résolution fut si impulsive qu'il ne prit même pas le temps de se demander comment il ferait pour l'attirer hors de la chambre de Pilar Ternera. Il resta plusieurs heures à rôder autour de la maison, sifflant selon le code dont ils avaient convenu, jusqu'à ce que l'approche de l'aube l'obligea à s'en retourner. Dans la chambre de sa mère, jouant avec la petite sœur qui venait de naître, le visage empreint d'une innocence qui ne faisait guère de doute, il trouva José Arcadio. Ursula avait à peine observé ses 40 jours de convalescence quand les gitans revinrent. C'étaient les mêmes saltimbanques et jongleurs qui avaient apporté la glace. À la différence de la tribu de Melquiades, il leur avait fallu peu de temps pour faire la preuve qu'ils n'étaient pas des héros du progrès, mais de vulgaires colporteurs d'amusettes. Ainsi, lorsqu'ils apportèrent la glace, ils se gardèrent de la présenter en fonction de son utilité dans la vie des hommes, mais comme une simple curiosité de cirque. Cette fois, entre autres ingénieuses attractions, ils revenaient avec un tapis volant. Là encore, ils ne le montrèrent pas comme un apport fondamental au développement des transports, mais comme un objet d'amusement. Les gens, bien entendu, allèrent déterrer leurs dernières miettes d'or pour bénéficier d'un survol rapide des maisons du village. Profitant de la délicieuse impunité que leur assurait le désordre général, José Arcadio et Pilar connurent quelques heures de liberté. Ils allaient comme de fiancés bienheureux, perdus dans la foule, et ils en arrivèrent même à soupçonner que l'amour pouvait être un sentiment plus posé, plus profond que ce bonheur effréné mais éphémère de leur nuit clandestine. Pilar, cependant, rompit le charme. Stimulée par l'enthousiasme avec lequel José Arcadio paraissait jouir de sa compagnie, elle ne sut choisir ni son moment ni sa formule, et d'un seul coup, elle lui laissa tomber le monde entier sur la tête. « Maintenant, tu es vraiment un homme, » lui dit-elle. Et comme il ne saisissait pas ce qu'elle entendait par là, elle le lui expliqua sans embâge. « Tu vas avoir un fils. » José Arcadio n'osa plus sortir de chez lui pendant plusieurs jours. Il lui suffisait d'entendre Pilar rire à gorge déployée dans la cuisine pour courir se réfugier au laboratoire où les instruments d'alchimie étaient à nouveau rentrés en action avec la bénédiction d'Ursula. José Arcadio Buendía accueillit avec ravissement son enfant prodigue et l'initia aux recherches qu'il avait enfin entreprises sur la pierre philosophale. Un après-midi, les enfants furent saisis d'admiration à la vue du tapis volant qui passa, rapide, au niveau de la fenêtre du laboratoire, portant à son bord le pilote gitan et plusieurs enfants du village qui faisaient des signes joyeux de la main. Mais José Arcadio Buendía ne regarda même pas dans sa direction. « Laissez-les rêver, » dit-il. « Nous autres, nous volerons bien mieux qu'eux, avec des moyens plus scientifiques que cette misérable couverture. » Malgré l'intérêt qu'il feignait d'y porter, José Arcadio n'entendit jamais rien aux propriétés de l'œuf philosophique qui ne lui paraissait être qu'un flacon défectueux. Il n'arrivait pas à se libérer de ce qui le préoccupait. Il perdit l'appétit et le sommeil, se laissa aller à la mauvaise humeur tout comme son père devant le fiasco d'une de ses entreprises, et il parut si chamboulé que le même José Arcadio Buendía le releva de ses fonctions au laboratoire, croyant qu'il avait pris l'alchimie par trop à cœur. On se doute qu'Aureliano comprit que l'état de désolation de son frère n'avait pas son origine dans la recherche de la pierre philosophale, mais il ne réussit à lui arracher aucune confidence. José Arcadio avait perdu son ancienne spontanéité. De complice et communicatif qu'il avait été, il devint secret, hostile. Jaloux de sa solitude, tenaillé par une rancœur empoisonnée à l'égard du monde, il quitta son lit comme d'habitude, une nuit, non pour se rendre chez Pilar Ternera, mais pour se perdre dans le tumulte de la foire. Après avoir déambulé entre toutes sortes d'attractions, sans s'intéresser à aucune, il tomba en arrêt devant quelque chose qui ne faisait pas partie du spectacle. Une gitane toute jeune, presque une enfant, accablée sous le poids de ses verroteries, la plus belle femme que José Arcadio eût jamais vue de sa vie. Elle était dans la foule qui assistait à la triste exhibition de l'homme changé en vipère pour avoir désobéi à ses parents. José Arcadio n'y prêta pas attention. Tandis que se déroulait le tragique interrogatoire de l'homme vipère, il s'était frayé un chemin à travers la foule jusqu'au premier rang où se tenait la gitane et s'était posté derrière elle. Il se pressa contre son dos. La jeune fille essaya de se détacher, mais José Arcadio se colla derrière elle avec plus d'insistance. Alors, elle le sentit. Elle resta immobile contre lui, tremblante de surprise et de peur, incapable de se rendre à l'évidence, puis finit par tourner la tête et le regarda avec un sourire nerveux. Sur ce, deux gitans replacèrent l'homme vipère dans sa cage et l'emportèrent à l'intérieur de la tente. Le gitan qui animait le spectacle annonça « Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous faire assister à la terrible épreuve de la femme condamnée à être décapitée toutes les nuits, à cette même heure, pendant 150 ans pour la punir d'avoir vu ce qu'elle ne devait pas voir. » José Arcadio et la jeune fille n'assistèrent pas à la décapitation. Ils s'enfurent sous sa tente à elle, où ils s'embrassèrent avec une impatience fébrile en se libérant de leurs vêtements. La gitane se débarrassa de ses jupes superposées, de ses nombreux cotillons de dentelles amidonnées, de son inutile corset baleiné, de son fardeau de verroterie, si bien qu'il ne resta pratiquement plus rien d'elle. C'était une grenouille fluette, au sein naissant, et aux jambes si maigres qu'elle n'atteignait pas en diamètre les bras de José Arcadio, mais elle faisait preuve d'une décision et d'une chaleur qui compensaient sa chétivité. Cependant, José Arcadio se trouvait empêché de la payer de retour, car ils étaient dans une espèce de tente qui n'avait rien de privé, où les gitans passaient avec leurs accessoires de cirque et réglaient leurs affaires, ou s'arrêtaient même près du lit pour jouer aux dés. La lampe pendue au poteau central éclairait tout l'intérieur. Entre deux caresses, José Arcadio s'allongea sur le lit, tout nu, ne sachant trop que faire, tandis que la jeune fille essayait de ranimer ses ardeurs. Une gitane aux chairs plantureuses fit peu après son entrée, accompagnée d'un homme qui ne faisait pas partie de la tribu, mais n'appartenait pas non plus au village, et tous deux commencèrent à se dévêtir au pied du lit. La femme jeta incidemment un coup d'œil sur José Arcadio et se mit à examiner avec une sorte de ferveur pathétique son magnifique animal au repos. « Eh bien, mon garçon, s'exclama-t-elle, que Dieu te la préserve !» La compagne de José Arcadio les pria de les laisser tranquilles, et le couple se coucha par terre, tout contre le lit. La passion des autres ranima la fièvre de José Arcadio. Au premier attouchement, les os de la jeune fille parurent se désarticuler, avec un craquement épouvantable, comme celui d'une boîte à dominos, et sa peau fondit en suée livide, et ses yeux se remplirent de larmes, et tout son corps laissa échapper une plainte lugubre et une vague odeur de vase. Mais elle supporta le choc avec une force de caractère et une vaillance admirables. José Arcadio se sentit alors porté dans les airs jusqu'à un état d'inspiration séraphique où son cœur emballé se fit la source de tendres obscénités qui entraient dans les oreilles de la jeune fille et lui ressortaient par la bouche, traduites en sa propre langue. On était jeudi. Dans la nuit du samedi, José Arcadio se noua un chiffon rouge sur la tête et partit avec les gitans. Lorsqu'Ursula découvrit son absence, elle le chercha dans tout le village. Là où les gitans avaient démonté leur campement, il n'y avait plus guère qu'une traînée de détritus entre les cendres encore fumantes des foyers éteints. Quelqu'un qui passait par là, fouillant les ordures en quête de quelques verroteries, confia à Ursula qu'il avait vu son fils, la nuit précédente, dans la cohue des gens du spectacle, poussant une charrette avec la cage de l'homme vipère. « Il s'est fait gitan !» cria-t-elle à son mari, qui n'avait pas donné le moindre signe d'émoi devant cette disparition. « Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi !» fit José Arcadio Buendía en pilant dans son mortier la matière mille fois pilée et réchauffée et pilée à nouveau. « Il apprendra à devenir un homme !» Ursula s'enquit de la direction qu'avaient prise les gitans. Elle continua à se renseigner en suivant le chemin qu'on lui avait indiqué et estimant qu'elle avait encore le temps de les rattraper, s'éloigna toujours davantage du village, jusqu'à ce qu'elle eût conscience de se trouver si loin qu'il ne lui fallait plus songer à revenir. José Arcadio Buendía ne découvrit l'absence de sa femme qu'à 8 heures du soir, lorsque, laissant sa matière à réchauffer dans un lit de fumier, il alla voir ce qu'avait la petite Amaranta enrouée à force de pleurer. En quelques heures, il réunit une petite troupe d'hommes bien équipés, confia Amaranta à une femme qui s'offrit de la nourrir de son lait, et se perdit par des sentiers invisibles sur les pas d'Ursula. Aureliano les accompagnait. À l'aube, des pêcheurs indigènes dont ils méconnaissaient la langue leur firent comprendre par signe qu'ils n'avaient vu passer personne. Au bout de 3 jours de vaines recherches, ils revinrent au village. Pendant plusieurs semaines, José Arcadio Buendía se laissa vaincre par la désolation. Il s'occupait comme une mère de la petite Amaranta. Il la baignait, la changeait, l'emmenait chez sa nourrice 4 fois par jour et allait jusqu'à lui chanter, la nuit venue, des airs que jamais Ursula n'avait su lui chanter. Un jour, Pilar Ternera proposa ses services pour effectuer les travaux domestiques en attendant le retour d'Ursula. Aureliano, dont la mystérieuse intuition s'était encore sensibilisée dans le malheur, éprouva comme un éclair de lucidité en la voyant entrer. Dès lors, il fut certain que, de quelque manière inexplicable, c'était elle la responsable de la fugue de son frère et de la disparition de sa mère qui avait suivi, et il la tourmenta si bien avec une hostilité silencieuse mais implacable que la femme ne remit plus les pieds à la maison. Avec le temps, tout rentra dans l'ordre. José Arcadio Buendía et son fils auraient été bien incapables de préciser à quel moment ils réintégrèrent le laboratoire, secouant la poussière, rallumant la tanore, rendu une fois de plus à la patiente manipulation de la matière endormie depuis des mois dans son lit de fumier. Amaranta elle-même, couchée dans une corbeille de rotin, observait avec curiosité l'absorbant labeur de son père et de son frère, dont le petit cabinet allait raréfié par les vapeurs de mercure. Un beau jour, plusieurs mois après le départ d'Ursula, commencèrent à se produire des choses étranges. Un flacon vide, oublié depuis longtemps dans une armoire, se fit si lourd qu'il fut impossible de le bouger. Une casserole d'eau posée sur la table de travail se mit à bouillir sans feu pendant une demi-heure, jusqu'à s'évaporer complètement. José Arcadio Buendía et son fils observaient ces phénomènes avec un ravissement mêlé d'effroi, incapables de se les expliquer, mais les interprétant comme des présages de la matière. Un jour, le berceau d'Amaranta se mit à remuer, animé par une impulsion propre, et effectua un tour complet de la chambre à la grande stupéfaction d'Aureliano, qui se hâta de l'arrêter. Mais son père ne s'émut pas pour autant. Il remit le berceau en place et l'attacha au pied d'une table, convaincu que l'événement attendu était imminent. Ce fut à ce propos qu'Aureliano l'entendit dire « Si tu ne crains pas Dieu, crains les métaux !» Tout à coup, presque 5 mois après sa disparition, Ursula fut de retour. Elle revint plus magnifique, plus jeune que jamais, avec des atours nouveaux d'un style inconnu au village. José Arcadio Buendía eut du mal à résister au choc. « C'était bien cela !» s'écria-t-il. « Je savais que ça devait arriver !» Et il en était intimement persuadé, car dans ses retraites prolongées, tandis qu'il manipulait la matière, il priait dans le fond de son cœur pour que le prodige attendu ne fût pas la découverte de la pierre philosophale, ni la libération du souffle qui fait vivre les métaux, ni la possibilité de changer en or les charnières et les serrures de la maison, mais ce qui venait juste de se réaliser. Le retour d'Ursula. Elle-même, cependant, ne semblait nullement partager son allégresse. Elle lui donna un baiser fort conventionnel, comme si elle ne s'était absentée que depuis 1 heure, et lui dit « Va voir à l'entrée ». José Arcadio Buendía mit longtemps à se remettre de sa perplexité lorsqu'il sortit dans la rue et aperçut la foule. Ce n'étaient pas des gitans, c'étaient des hommes et des femmes semblables à eux, aux cheveux raides et à la peau sombre, qui parlaient la même langue et se plaignaient des mêmes mots. Ils étaient venus avec des mules chargées de provisions, des chariots traînés par des bœufs remplis de meubles et d'ustensiles, simples accessoires de la vie d'ici-bas que vendent sans esbrouf les petits marchands de la réalité quotidienne. Ils arrivaient de l'autre rive du Marigot, à seulement 2 jours de marche, où se trouvaient d'autres villages, qui recevaient le courrier tous les mois et connaissaient les machines génératrices de mieux-être. Ursula n'avait pas rattrapé les gitans, mais elle avait trouvé la route que son mari, dans sa recherche infructueuse des grandes inventions, n'avait su découvrir.